Radio France Internationale, il est 6h, à Paris 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Clotilde Dumay.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Dans ce journal, reportage dans le sud de la Syrie où les habitants vivent au rythme des incursions israéliennes et s'inquiètent de l'absence du nouveau pouvoir syrien. Dans l'actualité également, Vladimir Poutine qui appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes dans la région russe de Koursk où Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est très difficile. Les petites entreprises américaines, premières victimes des droits de douane voulus par Donald Trump, reportage à New York à suivre. Et puis le salon du livre africain ce week-end à Paris avec notamment la littérature camerounaise mise à l'honneur.
C'est une première depuis une cinquantaine d'années.
Une délégation de druzes syriens en visite hier en Israël. L'État hébreu avait apporté son soutien après le départ de Bachar al-Assad aux adeptes de cette religion ésotérique issue de l'islam, répartie dans plusieurs pays de la région. Et des dizaines de chers druzes ont donc traversé la ligne de cessez-le-feu dans la partie du Golan syrien annexée par Israël. L'État hébreu qui poursuit d'ailleurs ses incursions au sud de la Syrie dès le lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad. Les chars israéliens sont apparus et depuis les nouvelles autorités de Damas sont absentes dans la zone. Reportage de Mohamed Erami.
Des traces fraîches de chars israéliens marquent la terre sèche du sud syrien, dessinant une route entre Israël et la Syrie. Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne fait partie du paysage, surtout dans la province de Qunitra. Elle ne vient pas les mains vides, aide humanitaire, échange direct avec les habitants. Abou Mohamed, épicier à Souaissa, voit tout depuis sa boutique en bord de route.
Les tanks, les véhicules blindés et les petites voitures israéliennes traversent quotidiennement ces zones dans le but d'imposer un fait accompli. Ils sont allés dans les maisons des habitants et leur ont proposé de l'aide alimentaire. Certains ont accepté leur offre, mais la majorité l'ont refusée.
À mesure qu'on s'approche de la frontière, une voix nous arrête. Mohan El Ahmad, un habitant du sud, met en garde. Il craint qu'Israël ne fasse plus que passer, que le sud ne devienne une zone occupée. Ici, dit-il, les soldats peuvent surgir à tout moment.
En tant qu'habitants, nous demandons au nouveau gouvernement syrien d'intervenir immédiatement et de nous fournir l'ensemble des services publics et de faire face aux incursions israéliennes le plus rapidement possible afin que le destin de Qunitra ne soit pas le même que celui du plateau du Golan.
Le sud syrien regroupe trois provinces, Qunitra, Dera et Souaida. Environ 1 million de Syriens y vivent dans l'incertitude de ce que leur réserve l'avenir. Mohamed Erami, Qunitra, RFI.
Concernant cette fois la bande de Gaza, le Hamas se dit prêt à libérer un otage israélo-américain et à rendre les dépouilles de 4 autres dans le cadre des négociations sur la suite de la trêve. La Maison-Blanche accuse le Hamas de vouloir gagner du temps alors que des discussions ont eu lieu cette semaine à Doha en présence de l'émissaire du président américain Steve Witkoff qui a présenté une proposition prévoyant une extension de la trêve jusqu'à la mi-avril contre la libération d'une partie des otages.
L'émissaire américain qui était à Moscou hier pour discuter avec les Russes d'une éventuelle trêve avec l'Ukraine.
Des discussions productives selon Donald Trump, le président américain qui a appelé son homologue russe à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. Vladimir Poutine leur a demandé, lui, peu après, de déposer les armes et de se rendre dans la région russe de Koursk où le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est très difficile. Dans ce contexte, le futur chancelier allemand a fait un pas de plus vers la hausse des dépenses pour la défense. Friedrich Merz a obtenu l'accord des écologistes et des sociodémocrates pour qu'il ne s'oppose pas à son plan d'investissement de centaines de milliards d'euros pour réarmer et moderniser l'Allemagne. Les conservateurs, le SPD et donc les Verts devraient adopter le projet dès mardi au Bundestag.
L'Allemagne qui veut faire sauter son traditionnel verrou budgétaire pour financer sa défense, alors que l'Union européenne prévoit un plan de 800 milliards d'euros.
Reste que les 27 ont encore des difficultés à travailler ensemble pour une industrie européenne de la défense, toujours très morcelée, comme l'explique Sylvie Matly, directrice de l'Institut Jacques Delors.
Ce qui s'est passé au niveau européen depuis plusieurs années, c'est que chaque pays européen a pensé ses capacités militaires et ses capacités de production d'armement de manière nationale. Les projets en coopération ont été peu nombreux, ils ont souvent mal fonctionné. La conséquence immédiate, et pour illustrer un petit peu tout ça, c'est le nombre de chars de combat, d'avions de combat que nous sommes capables de produire, qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus importants qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est du gaspillage. Mais si on a des équipements qui ont été produits par des producteurs qui se sont coordonnés, des sous-traitants qui ont été renforcés par des commandes communes, eh bien, on réduit cette fragmentation, donc on réduit les gaspillages et on renforce les capacités produites pour l'argent dépensé. Pour 100 euros aujourd'hui, on produit bien moins de capacités qu'on ne pourrait, et d'armement qu'on ne pourrait en produire si on travaillait tous ensemble.
Un propos recueilli par Altin Lazage. Des dizaines de milliers de personnes attendues dans les rues de Belgrade. La mobilisation contre la corruption se durcit en Serbie. Plus de 4 mois après l'effondrement meurtrier d'un auvent de la gare de Novi Sad, nous serons en direct de Belgrade avec le correspondant de RFI dans le journal de 8h, heure de Paris. Aux États-Unis, le Sénat a trouvé un accord pour éviter un shutdown. Certains élus démocrates ont finalement cédé pour éviter une paralysie de l'administration fédérale en validant le budget prévu par les Républicains, budget provisoire, qui prévoit notamment de nouvelles réductions des dépenses pour l'État fédéral. Pendant ce temps, la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, qui veut multiplier les hausses de taxes douanières, se font déjà sentir aux États-Unis, notamment chez les petites entreprises, les commerces, les restaurants qui importent certains de leurs produits du Canada, de la Chine par exemple, et qui paient cher les décisions du président américain. Reportage à New York de Lumna Anaki.
We're freaking out internally.
Annie Bassine l'avoue, cela fait plusieurs semaines qu'elle vit avec la peur au ventre, inquiète de devoir mettre la clé sous la porte.
C'est très difficile de prévoir quoi que ce soit.
Avec son mari néerlandais, cette New-Yorkaise est à la tête d'une petite entreprise de 8 employés lancée il y a 8 ans. Ils fabriquent et vendent une boisson bio à base de gingembre dont ils mettent en avant les bienfaits pour la santé. Mais depuis que Donald Trump a imposé des taxes douanières, les bouteilles qu'ils importent de Chine leur coûtent plus cher.
On avait déjà eu 25% de taxes douanières en 2016 et là c'est 20% de plus.
Faire fabriquer leurs bouteilles aux États-Unis leur coûterait 3 fois plus. Alors pour faire face à cette situation, Annie et son mari Alar Van Horn ont dû faire des choix difficiles.
Malheureusement, on va licencier 80% de nos effectifs. C'est triste, mais c'était devenu irresponsable de continuer sur le même modèle. C'était trop risqué.
Le couple va également augmenter ses prix, une décision que de nombreux petits commerces comme eux ont dû prendre ces 2 derniers mois. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et au Canada, le nouveau Premier ministre Marc Carney a pris ses fonctions en expliquant que sa priorité serait de protéger les Canadiens face à des sanctions commerciales étrangères injustifiées, faisant référence justement aux droits de douane que Donald Trump veut imposer à son pays. Les rues de la Havane plongées dans le noir, nouvelle panne générale de courant à Cuba, la 4e en moins de 6 mois, panne due à un effondrement du système électrique national et à la vétusté des 8 centrales thermoélectriques du pays.
RFI 6h08 à Bangui, en Centrafrique. Depuis plusieurs jours, des quartiers de la capitale font face à de graves pénuries d'eau potable.
Pas une moindre goutte qui s'échappe du robinet dans une partie de la capitale. Conséquence, beaucoup d'habitants utilisent de l'eau de mauvaise qualité et sont exposés au risque de maladie. Un reportage à Bangui de Rolf Steve Domialeux.
Devant une fontaine du quartier de Transibila, une longue chaîne de personnes. Depuis 5 jours, aucune goutte d'eau n'est tombée du robinet. Debout à côté de son pouce, Jacques patiente sous le soleil.
Nous avons un sérieux problème d'eau. On veut avoir accès à l'eau potable. Vous voyez la situation de nos enfants, de toutes ces femmes qui n'ont rien à boire. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Mais si la population n'a pas d'eau, comment faire?
La situation est pire dans le nord de la capitale. Armés de bidons, des jerrycans et de seaux multicolores, hommes, femmes et enfants parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau. L'air fatigué, abîmé et désespéré.
Nous consommons de l'eau souillée. Nous sommes obligés d'utiliser l'eau des puits et des cours d'eau pour nos travaux ménagers. À force d'utiliser de l'eau contaminée, nous sommes exposés aux maladies d'origine hydrique.
Au centre-ville, le précieux liquide coule depuis 20 minutes. Mais pour combien de temps, Sonia n'en sait rien. Ça fait 8 heures qu'elle patiente dans la queue.
Imaginez une famille de 8 personnes qui ne possèdent pas l'eau courante. Comment faire la cuisine, la lessive, aller aux toilettes, se laver? Je marche dans le quartier depuis 3 heures du matin pour trouver de l'eau. C'est vraiment triste.
Selon une source à la Sodeca, la société de distribution d'eau en Centrafrique, les problèmes d'électricité enregistrés ces derniers jours dans la capitale empêchent la société de bien fonctionner. Rolf Steve Demialeux, Bangui, RFI.
Les plus âgés priaient d'abandonner leur permis de conduire en Corée du Sud. Voilà ce que propose Séoul pour réduire le nombre d'accidents de la route. La ville espère économiser près de 260 euros par senior, liés donc au coût de ces accidents. et l'initiative rencontre un certain succès sur place. Correspondance de Célio Fioretti.
Moins de seniors au volant, c'est ce qu'espère la capitale sud-coréenne. En échange de l'abandon de son permis de conduire, la mairie de Séoul offre aux plus de 70 ans un forfait pour les transports en commun. Un programme qui vise à réduire les accidents, comme l'explique Kim Eun-hae, en charge du programme.
Avec le vieillissement de notre population, il y a de plus en plus de seniors au volant. Les accidents de la route impliquant des seniors augmentent chaque année. C'est un vrai problème de société. Depuis le début du programme en 2019, environ 100 000 personnes ont restitué leur permis de conduire.
Un petit succès pour cette initiative qui s'est développée un peu partout dans le pays. Pour cette désormais ancienne automobiliste qui a rendu son permis, il s'agit d'une mesure de bon sens.
J'ai décidé de rendre mon permis de conduire. Mon mari arrive encore à conduire, mais moi j'ai du mal. Alors il valait mieux que j'arrête avant d'avoir un accident.
L'an dernier, un conducteur de 68 ans a perdu le contrôle de son véhicule en centre-ville de Séoul, tuant 9 personnes. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
RFI 6h11 à Paris, la capitale française, où le salon du livre africain a débuté hier.
Quatrième édition de ce salon, déjà devenu incontournable. Cette année, environ 180 auteurs sont programmés. Des dizaines de maisons d'édition africaines ou diasporiques sont présentes. Et les écrivains du Brésil et du Cameroun sont mis à l'honneur. Reportage d'Olivier Roger.
Bienvenue sur le stand de Akomamba, maison d'édition jeunesse installée à Yaoundé.
Robert Nkwamou, imprimeur et éditeur, ne boude pas son plaisir de voir la littérature camerounaise mise ainsi à l'honneur au Salon du Livre Africain de Paris. Un événement indispensable pour des éditeurs africains qui peinent souvent à être distribués au-delà de leurs frontières nationales. Isabelle Kassifofana, créatrice de Masaya Édition en Côte d'Ivoire.
C'est vraiment une bonne adresse. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas forcément distribués ici, de pouvoir l'instant de ce salon, de rencontrer des professionnels, de rencontrer un public qui est à la recherche aussi de nos ouvrages.
Et ce public, c'est souvent celui des diasporas vivant en France. Éric Monjour, créateur et directeur du salon.
La diaspora africaine en Ile-de-France est très nombreuse et je trouve que l'idée de leur proposer quelque chose qui les concerne très directement a vraiment eu une importance sur le succès du salon dès la première édition.
Bien entendu, le succès du salon tient aussi au foisonnement créatif littéraire actuel. L'Afrique n'a jamais autant lu et écrit qu'en ce début de 21e siècle. De quoi réjouir la conteuse et autrice marocaine Halima Hamdan.
Et longue vie vraiment à ce salon qui mérite d'être un peu plus médiatisé, je dirais.
Voilà, le salon du livre africain dans le quartier du Marais à Paris jusqu'à demain. Et puis leur retour sur Terre se précise enfin, coincé dans l'espace depuis 9 mois. Les 2 astronautes américains de la NASA devraient bientôt pouvoir entrer à bord d'un vaisseau de SpaceX. Quelques jours après l'annulation de la mission en raison d'un problème technique, la fusée Falcon 9 a finalement décollé de Floride en direction de la Station Spatiale Internationale avec un nouvel équipage à bord qui prendra donc le relais des 2 astronautes américains.
Clotilde Dumais pour le journal. Il est 6h13 à Paris, 5h13. En temps universel. Bienvenue dans RFI Matin, 3 heures d'information avec nos invités, nos reportages et nos chroniques. D'abord, cette journée sous tension en Serbie, des dizaines de milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui dans les rues de Belgrade contre le pouvoir. Nous sommes dans la capitale serbe pour le reportage international. La survie à Gaza, depuis près de 2 semaines, les Palestiniens de l'enclave doivent faire sans l'aide humanitaire, bloquée par Israël, sans électricité aussi. On reparle de cette situation avec notre grand invité international, Grégoire Rivière de l'ONG Solidarité Internationale. Il revient tout juste de Gaza. Notre chronique menace sur l'info ce matin sur José Rubén Zamora, le journaliste le plus populaire du Guatemala. Une nouvelle fois emprisonné, il dénonce une détention arbitraire et promet de continuer son combat contre la corruption.
Je ne peux que me déclarer innocent, persécuté, considéré comme un criminel. C'est encore une détention arbitraire et illégale et ça s'apparente aussi à des mesures de répression psychologique. Mais je vais continuer.
Notre invité Afrique ce matin est Lajoya Sen, de son nom d'artiste Mawa Yadjoa, slameuse et poète qui, à l'occasion de la semaine de la francophonie, invite les plus petits à s'approprier la langue française, à jouer sur les mots puis à les déclamer à l'oral. Dans le reportage culture, un aperçu de l'exposition à Paris sur le wax, ce tissu très répandu en Afrique aux couleurs vives et à l'histoire mouvementée.
C'était important de ne pas faire une énième expo sur l'histoire coloniale du wax. C'était aussi un enjeu pour nous d'élargir, de montrer qu'aujourd'hui le wax porte des symboliques, des sens et des utilisations plus complexes que ça, que c'est un tissu extrêmement multiculturel et voyageur.
Exposition à voir au Musée de l'Homme à Paris. RFI Matin, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. En Serbie, la contestation étudiante prend un tournant. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui dans la capitale, Belgrade. 4 mois de mobilisation pour faire pression sur le gouvernement après l'accident mortel de la gare de Novi Sad. Si le Premier ministre depuis a démissionné, le pouvoir reste globalement sourd aux revendications et craint aujourd'hui des débordements. Alors, devant le palais présidentiel, une unité armée a été positionnée. Elle suscite indignation ou curiosité. Yelena Tomic.
L'immense popularité des étudiants, que plus rien ne semble pouvoir arrêter, est un énorme défi pour le président qui contre-attaque. Un campement censé accueillir des étudiants opposés au blocage des universités a été installé devant le palais présidentiel. Le parc a pris l'allure d'une zone fortifiée, occupée depuis plus d'une semaine par des dizaines de tentes bleues, vert kaki ou camouflage. À l'intérieur, plusieurs centaines d'individus, en majorité des hommes en survêtement, certains en treillis, coiffés de bérets rouges, des vétérans des forces spéciales dissoutes. Dushan Aralica, un retraité, s'indigne.
Que dire, c'est une honte d'avoir amené ici des membres d'une unité responsable de l'assassinat de l'ancien président Stambolic, qui a été enlevé, tué, puis enterré dans la forêt de Fruška Gora, ce qui a été démontré en justice. Les ex-membres des Bérets Rouges ont également assassiné le Premier ministre Zoran Djindjic. Ressortir aujourd'hui cette unité infâme est une ignominie sans nom, mais je ne pense pas qu'il y aura des désordres. Ce sera au contraire un rassemblement massif dans la joie et la bonne humeur.
Le parc, entouré de tracteurs, pique la curiosité de nombreux passants. Ivana Stanojevic filme la scène avec son téléphone.
Les gens que vous voyez là, ce sont des figurants qui se font passer pour des étudiants, soit pour de l'argent, soit pour obtenir ou garder un emploi. Le plus terrible dans tout ça, c'est que le président les utilise comme un bouclier humain.
Et vous craignez des violences ?
Des informations circulent que des provocateurs et des casseurs chercheront à provoquer des incidents. Les violences ne viendront certainement pas des manifestants et des étudiants qui, depuis le début du mouvement, ont démontré qu'ils étaient pacifiques et non violents. J'espère sincèrement que l'ampleur de ces manifestations découragera les perturbateurs. Il ne faut pas céder à la panique qui génère le chaos. Le chaos, personne n'en veut.
La mise en scène du parc et les tracteurs acheminés à grand renfort à la veille de la manifestation sont tournés en dérision par la population qui n'a qu'une chose en tête, la journée du 15 mars qui s'annonce historique. Yelena Tomic, Belgrade, RFI.
Et on sera en direct de Belgrade avant cette grande manifestation. Rendez-vous dans le journal de 6h, temps universel.
RFI Matin.
On feuillette à présent le dernier numéro de Jeune Afrique. Catherine Potet est avec François Soudan.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, une interview de Patrice Talon. Le président béninois a interrogé aussi bien sur ses intentions pour la prochaine élection présidentielle en 2026 que sur la recrudescence des attaques djihadistes. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui avez réalisé cette interview de Patrice Talon à Cotonou et vous l'avez d'abord interrogé sur l'arrestation il y a près de 6 mois et la condamnation en janvier dernier de son ancien bras droit, Olivier Boko, accusé de complot contre l'autorité de l'État. Le président béninois ne s'était pas exprimé depuis l'arrestation d'Olivier Boko. Alors, que vous a-t-il dit à ce sujet ?
C'est une affaire que Patrice Talon dit avoir vécue comme un drame, comme une tragédie intime. Olivier Boko, c'était un frère, un compagnon de fortune et d'infortune, avec qui j'ai vécu l'exil, la conquête, puis l'exercice du pouvoir. Et il ajoute cette phrase terrible, « Je m'en veux d'avoir contribué à faire de mon meilleur ami un monstre ». Car Patrice Talon, il en est persuadé, Catherine. Olivier Boko, à qui il avait délégué énormément de pouvoir, y compris celui de veiller sur sa propre sécurité, n'aurait pas supporté que le président contrevienne à son ambition de lui succéder en 2026, au point de préparer un coup d'État en entraînant dans cette aventure le chef de la garde républicaine, le colonel Tevo Edjré, lequel l'aurait en définitive piégé. Longtemps, dit Patrice Talon, j'ai été dans le déni avant de me rendre compte que ce n'était pas un caprice d'enfant gâté de sa part, mais une volonté déterminée d'exercer le pouvoir, tout le pouvoir, quitte à me déposer. Et quand je pose la question à Patrice Talon de savoir pourquoi il ne voulait pas qu'Olivier Boko soit en quelque sorte son dauphin, la réponse est la suivante. Pour le bien du Bénin, de la démocratie, il est inenvisageable que mon successeur soit issu de ma famille et de mon clan. Or, si un homme était de mon clan, c'était bien lui. A noter, Catherine, qu'au cours de son procès, Olivier Bocquot a nié à avoir projeté un coup d'État.
François Soudan, vous avez également abordé avec Patrice Talon la question de la recrudescence des attaques djihadistes dans le Nord, ainsi que les relations délicates entre le Bénin et ses voisins de l'Alliance des États du Sahel.
Oui, ces deux aspects sont liés hein, aux yeux de Patrice Talon. Son armée, dit-il, est confrontée à des groupes terroristes qui évoluent en toute liberté dans des sanctuaires désertés par les forces de défense et de sécurité du Burkina et du Niger. Nous serions bien plus efficaces, dit-il, si nous pouvions les poursuivre au-delà de nos frontières pour les détruire. Hélas, nos relations avec nos voisins ne se sont dégradées et rendent la chose impossible. Alors Patrice Talon déplore qu'il n'y ait donc aucune coopération sécuritaire avec Ouagadougou et Niamey, malgré, dit-il, de multiples relances de sa part en ce sens. Et il en profite pour tordre le cou à la rumeur de réseaux sociaux, il est vrai accrédité, propagé par les présidents Tiani et Traoré eux-mêmes, selon laquelle le Bénin abriterait des bases d'entraînement de groupes armés destinés à déstabiliser ses voisins. Il n'y a rien de tel sur le sol béninois, affirme-t-il. En général, quand on dispose de ce genre de preuves, on les expose. Or, aucune preuve ne nous a été transmise.
Dernier point, François Soudan, il concerne bien sûr l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession? Eh bien, il se veut très clair, la réponse est non.
Oui, cette question m'agace, dit-il. Elle dénote le mépris que nous-mêmes et les autres avons de nos propres institutions. Est-ce que vous la poseriez sous d'autres cieux? Je ne le pense pas. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats dans sa vie et je serai le premier à la violer une énième fois. Je vous l'aurais dit, non, je ne serai pas candidat. Alors, question, Catherine, qu'est-ce qu'il fera après? Sortir, me promener dans les rues, aller au marché, au cinéma, jouer à la pétanque. Tout ça, ça me manque, assure-t-il. Je suis pressé d'être le témoin des réalisations de mon successeur, qui, je le souhaite, fera mieux que moi. Je redeviendrai simple citoyen et je serai politiquement inexistant. Dont acte, Catherine, même si on imagine tout de même assez mal cet hyperactif qui aura alors 67 ans en paisible retraité.
Merci François Soudan. Cette interview de Patrice Talon est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous Catherine Potet. La chronique science. Ce matin, on parle archéologie et physique avec vous, Caroline Lachowski. Vous revenez, Caroline, sur une découverte stupéfiante sur le site d'Herculanum, tout près du Vésuve, en Italie. Celle d'un cerveau humain transformé en verre par l'éruption du volcan en l'an 79 de notre ère.
Pourquoi et comment un cerveau humain peut-il se transformer en verre? C'est l'anthropologue forensique Pier Paolo Petrone de l'Université de Naples qui le premier a repéré un étrange matériau brillant localisé au sommet d'un corps entièrement carbonisé, exhumé en 1960 dans un temple d'Herculanum, ville romaine située à 7 km du Vésuve. L'analyse au microscope électronique de ces fragments de verre noir a révélé des réseaux complexes de neurones et d'axones. Pas de doute, il s'agissait bien du premier cerveau de verre jamais découvert. Celui d'un jeune homme de 20 ans, probablement le gardien de ce temple d'Herculanum, retrouvé dans un lit, enseveli par les nuées ardentes, libéré par la monstrueuse éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi et Herculanum en l'an 79. Mais restait à comprendre comment un tel processus, la vitrification d'un cerveau humain, avait pu se produire. Une énigme pour les scientifiques, archéologues et vulcanologues qui, après avoir publié en 2020 leur spectaculaire découverte, ont cherché à reconstituer le cours des événements en faisant appel notamment à des physiciens spécialistes du verre.
Et que révèle cette nouvelle étude qui vient d'être publiée dans la revue Scientific Reports?
Eh bien d'abord que le verre peut effectivement se former dans un environnement volcanique, mais pour que les coulées de lave vitrifient non seulement des roches dures, mais des tissus organiques, mous et pleins d'eau, il faut que cette extrême chaleur soit suivie très rapidement par un refroidissement aussi extrême. Et c'est précisément ce que montre l'analyse par calorimétrie et spectroscopie des échantillons du cerveau de verre. À partir de ces données, le vulcanologue Guido Giordano de l'université Roma III, premier auteur de cette étude, a pu reconstituer le scénario et valider l'hypothèse d'une nuée ardente initiale meurtrière sur Herculanum dès les premières heures de l'éruption, qui a laissé sur la ville un fin nuage de cendres brûlantes dépassant les 510 degrés Celsius, ce qui a suffi à tuer les habitants. Mais ces cendres se sont ensuite vite dispersées et c'est ce refroidissement rapide qui a enclenché ce stupéfiant processus de vitrification du cerveau. Et ce n'est que quelques heures plus tard que la ville entière d'Herculanum a été totalement ensevelie sous des coulées dites pyroclastique, c'est-à-dire par une avalanche de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Comme le souligne le vulcanologue italien, la compréhension de ce scénario est essentielle pour la prévention des populations face au risque d'éruptions volcaniques actuelles. On sait désormais que même les premières nuées ardentes, très diluées, qui n'ont pas d'impact sur les structures ou les bâtiments, peuvent se révéler mortelles en raison de leur température. Et ça, c'est grâce au cerveau de verre du jeune homme, gardien du temple d'Herculanum.
Jusqu'où va la science, chronique signée Caroline Lachowski. Parce que seul aux manettes, ça peut lasser à force aujourd'hui. Dans la chronique Bienvenue dans le game, on parle de ces jeux vidéo avec lesquels on ne fait plus cavalier seul. Et vous nous faites quelques recommandations, Jennifer Lufaux.
Oui, explorer un univers seul, c'est bien, mais à deux, c'est parfois plus fun. Le jeu qui fait sensation en ce moment est Split Fiction. Il a été développé par le studio Hazelight et c'est un jeu narratif coopératif sorti pas plus tard que la semaine dernière. Alors, on y incarne Mio et Zoé, deux écrivaines que tout oppose. Elles se retrouvent emprisonnées dans les mondes de fiction qu'elles ont créés et doivent trouver le moyen d'en sortir. Split Fiction a plusieurs particularités. D'abord, son univers, ou plutôt ses mondes. En effet, alors que Zoé est autrice de fantasy, Mio, elle, écrit de la science-fiction. Imaginez ce que ça donne alors lorsque, par accident, leurs deux mondes se mélangent et créent des situations extraordinaires. Ajoutez à ça les personnalités opposées des personnages, des mécaniques de jeu stressantes mais hilarantes, et vous avez la recette d'un jeu qui va vous amuser à deux. Split Fiction est d'ores et déjà disponible sur PC, Xbox Series et PS5.
On passe à deux autres jeux. Jennifer, le premier nous fera rire aux éclats.
Il s'agit de Heave-Ho. Dans ce jeu de plateforme et de puzzle, nous incarnons des personnages sans bras qui doivent se balancer et s'agripper pour atteindre la ligne d'arrivée. La coopération est essentielle pour progresser et les situations cocasses s'enchaînent à un rythme effréné. Heave-Ho, c'est un jeu simple mais terriblement efficace qui garantit des heures de fun. On enchaîne avec un jeu qui s'appelle It Takes Two et ça a été élu le jeu de l'année 2021. Ce jeu d'aventure et de plateforme, aussi développé par Hazelight Studios, nous plonge dans l'histoire d'un couple en crise, Cody et May, qui ont été transformés en poupées par un sortilège. Pour retrouver leur apparence humaine, ils devront collaborer et surmonter de nombreux défis. It Takes Two se distingue par son gameplay varié, son univers coloré et son scénario touchant. C'est vraiment un véritable chef-d'œuvre du jeu coopératif qui a séduit ou détruit, je pense, beaucoup de couples.
Et le même studio a aussi développé A Way Out.
Et oui, cette fois, direction la prison. Dans ce jeu d'action et d'aventure, nous incarnons Léo et Vincent, deux détenus qui tentent de s'évader de prison. L'originalité du titre réside dans son gameplay asymétrique qui demande une coordination parfaite entre les deux joueurs. A Way Out, c'est un jeu intense et immersif qui nous tient en haleine jusqu'au bout et je vous conseille de tester les différentes fins possibles pour ne rien rater. Changeons enfin d'ambiance avec Unravel 2, un jeu de plateforme et de puzzle à l'atmosphère poétique et contemplative. Nous y incarnons deux Yarny, ce sont des petites créatures de laine liées par un fil qui doivent explorer des environnements magnifiques et résoudre des énigmes en coopération. Unravel 2, c'est un jeu doux et relaxant qui nous invite à la réflexion et à la contemplation, en espérant que ce jeu vous aide à filer le parfait amour avec le joueur numéro 2, si vous aimez bien les jeux de mots.
Merci Jennifer Lufaux. Bienvenue dans le game, la chronique jeux vidéo tous les samedis sur RFI. Restez avec nous sur la radio du monde dans un peu plus d'une minute. C'est le retour de l'actualité africaine avec un nouveau journal.
RFI à Victoria, 103.8 FM. Rodrigue, 93.2 FM.
L'atelier des médias. Steven Jambeau.
Depuis 2017, ce podcasteur français reçoit des chefs d'entreprise, des sportifs, des artistes. Il a même reçu le président Emmanuel Macron. Tout un symbole. Mathieu Stéphanie présente Génération Do It Yourself, un podcast qui cumule 1 million d'écoutes chaque mois et qui, chose rare, est un projet rentable. Je reçois donc un podcasteur français à succès dimanche à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Gabriela Zalapi qui publie Ilaria. Diplômée de la Haute École d'Art et de Design de Genève, cette artiste plasticienne transforme ses archives photographiques en paysages émotionnels. C'est parti pour une virée dans son Italie, sa Grande-Bretagne et sa judéité.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.